Allez, bonsoir, c'est le Régor. Chaque semaine sur l'École des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Les Régor, une parole anarchiste communiste.
Alors, chose promise, chose due, normalement, on devrait avoir le camarade dont on vous parlait la semaine dernière. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec nous?
Oui, bah, je suis là. Voilà.
Très bien. Tu ne t'es pas endormi au téléphone? Très bien,
non,
bravo.
Non, non, non.
Écoute, je vais te laisser te présenter tout d'abord. On avait dit que tu animais un blog sur l'Iran.
Oui, bah alors moi, c'est Pascal. Donc, j'anime un blog qui s'appelle Iran en lutte. C'est l'adresse, c'est Iran en lutte, tout attaché, .wordpress.com. Sur l'actualité de l'Iran depuis le mois de juin, notamment dans la crise révolutionnaire, et je travaille essentiellement avec le Parti communiste ouvrier d'Iran.
D'accord. Et alors, quel élément tu as sur la situation actuelle aujourd'hui, depuis le 27 décembre et puis depuis le début de l'année?
Alors, depuis le 27, on ferait peut-être qu'on revienne peut-être un peu plus tard sur la journée du 27, voilà, elle-même, qui a marqué un tournant. Mais sinon, depuis le 27, alors ce qu'il y a surtout, c'est des appels. Il y a eu un millier d'arrestations le 27, et dimanche de la semaine dernière, donc pas hier, hein, mais il y a une semaine, c'est ouvert le procès de moins 5 manifestants qui ont été arrêtés, dans un contexte où des ayatollahs, Khamenei lui aussi, des experts, enfin du conseil des experts, qui sont les grands ayatollahs qui dirigent le pays, des procureurs, on fait pas mal d'appels à sévir contre les manifestants, disons qu'ils étaient mohabés, c'est-à-dire en guerre contre Dieu, ce qui est passible de la peine de mort en Iran. Alors ça, c'est vraiment dans un climat de répression. Je pense qu'après le 27, le régime a peur, a vu qu'il était menacé, et essaye de terroriser la population en revenant aux méthodes qui ont été utilisées au moment de la prise du pouvoir en 79, 80, 81, c'est-à-dire la multiplication des exécutions. Il y avait des appels qui disaient qu'il fallait revenir aux méthodes avec des procès qui, en quelques minutes, déterminaient une exécution. Et ça, c'est un des risques. Ça, c'est pour donc la répression. Ça, c'est un des, donc, comme je disais, un des grands risques. Sinon, malgré tout, il y a des protestations qui continuent, en particulier dans les universités. Il y en a eu plusieurs samedi à Téhéran. Il y en a aussi eu à Kermanshah, par exemple, et des protestations qui continuent aussi dans plusieurs entreprises. Il y a un chantier, par exemple, il y a 600 travailleurs de la construction, un chantier qui devait faire un pont pour le métro de Téhéran, qui se sont mis en grève, je crois que c'était samedi ou jeudi, pour le paiement des salaires, et on commence à parler qu'il y aurait des grèves qui se profileraient dans le secteur pétrolier, aussi pour le paiement des salaires.
Ouais, alors effectivement, tu as raison d'insister sur ce qui s'est passé le 27. Nous, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière avec les éléments qu'on avait, mais et notamment les articles qu'il y avait sur ton blog, et on disait que effectivement, il y avait eu un tournant, puisque quelque part auparavant, on était peut-être à un niveau de crise politique, mais qu'aujourd'hui, on avait réellement un processus révolutionnaire, ou en tous les cas la transformation d'une crise qu'on pouvait éventuellement dire politique, mais c'est encore très discutable, à quelque chose de plus grand. Et on avait relevé différents éléments là-dedans, mais comme toi, tu as employé le mot aussi de révolutionnaire. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te fait utiliser ce mot-là, quoi ?
Bah, moi, je dirais que c'est depuis le mois de juin qu'on sent qu'il y a un ras-le-bol de la population qui se dirige contre le gouvernement, on va dire. Ce qui a eu le tournant du 27, c'est que d'un côté, il y avait une volonté offensive de la population, c'est-à-dire que c'était pas seulement se protéger contre les violences répressives, mais c'était y compris d'aller à l'offensive, de désarmer des flics ou des miliciens du régime, de barricader des rues, d'arrêter des éléments des forces répressives. Enfin, c'était beaucoup plus offensif que d'habitude au niveau de l'affrontement du côté de la population. Alors là, il y a des tas de vidéos qui circulent avec des voitures de la police anti-émeute qui sont attaquées, saccagées. Il y a eu un centre des Basiji sur Téhéran qui a été incendié. Enfin, il y a eu vraiment un côté offensif de la part de la population. Et alors surtout, en plus, dans un contexte, c'était des manifestations de la Choura. Alors, la Choura, c'est la principale fête chiite, fête de deuil, parce que c'est là où l'imam Hossein aurait été trahi. Enfin, c'est et un contexte où Moussaoui et les dirigeants de l'opposition, je dirais interne au régime, appelaient à des protestations mais pacifiques et religieuses. Et les slogans qui ont été criés étaient essentiellement dirigés contre Khamenei, étaient aussi un slogan qui revient de plus en plus, qui est liberté, indépendance, liberté, république iranienne, et qui en fait est une réponse au slogan des islamistes en 79, qui était indépendance, liberté, république islamique.
D'accord.
Ce qui veut dire république non islamique, donc la séparation de la religion et de l'État, ce qui peut sembler pas forcément super radical vu de France, mais qui en Iran, ça veut dire renverser le régime.
Oui, bien sûr, effectivement. Puis de toute façon, avec ce qui s'est passé, j'allais dire dans les actes, le 27, il y a une étape qui a été franchie. Clairement, le fait de d'établir des listes où même on voit circuler également le nom des tortionnaires, c'est des choses qui appellent clairement à un point de non-retour, quoi, un engagement vers quelque chose. Et tu dis donc depuis juin, mais est-ce qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs, parce que fondamentalement, ici, on n'a pas trop d'informations sur l'Iran. On a juste une diabolisation de l'Iran dans la présentation des relations internationales qu'on peut avoir de la part des grands médias. Mais on ne connaît pas grand-chose sur l'Iran. C'est quoi aujourd'hui l'état de la société iranienne ?
Des signes avant-coureurs. Alors après coup, le problème, c'est qu'on peut en trouver plein. Hein. Quand on les voit sur avant, bon, c'est des protestations. Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a par exemple quelque chose qui a toujours existé en Iran et qui dans le régime a une connotation, devient très vite révolutionnaire ou de transformation assez radicale, c'est le mouvement des femmes. Il y avait eu, je crois que c'est 2006, un 8 mars, qui avait été très combatif avec pas mal de femmes dans la rue, des campagnes pour l'égalité. Enfin, il y a ce mouvement des femmes qui en Iran... c'est quand même un régime qui est basé sur la discrimination entre les genres. Donc ça a tout de suite une remise en cause du régime, et c'était aussi une des premières résistances à la République islamique. Le 8 mars 79, c'était des dizaines voire des centaines de milliers de femmes dans les rues de Téhéran pendant plusieurs jours pour protester contre le port du voile obligatoire.
D'accord.
Qui avait fait d'ailleurs à l'époque, Khomeini avait reculé, mais pour mieux réattaquer après.
Il y avait eu un 1er mai aussi.
Et voilà, et j'allais venir là-dessus, ouais. C'est avant, donc peu avant, hein, les événements du mois de juin, le 1er mai 2009, où il y a eu un rassemblement de 2000 personnes par Parc Lalé. Alors 2000 personnes sur une ville de plusieurs millions comme Téhéran, on peut penser que c'est pas énorme, mais c'est dans des conditions de répression quand même particulières, et avec une plateforme très radicale. Une dizaine d'organisations ouvrières et une organisation de femmes ont fait une plateforme qui fait presque rêver quand on voit les plateformes syndicales qu'on a en France, qui intervient sur les salaires, notamment les salaires pas payés, qui parle de la crise du système capitaliste, qui demande l'égalité des droits entre hommes et femmes, qui demande aussi l'égalité pour les travailleurs afghans. Alors, les travailleurs afghans en Iran, c'est en pire les sans-papiers en France.
D'accord.
Hein, des gens qui ont fui la situation en Afghanistan, enfin la misère, la guerre et tout ça en Afghanistan, et qui se retrouvent en Iran à faire les boulots les plus mal payés, à vivre dans les pires conditions pour essayer de s'en sortir. C'est des revendications pour la liberté syndicale, la liberté de s'organiser dans les entreprises. Donc c'est une plateforme qui est très radicale, très complète, puisqu'elle touche pas que le lieu de travail en lui-même, hein, puisque par exemple, l'égalité homme-femme, c'est pas que dans l'entreprise, c'est aussi à tous les niveaux sociaux et l'abolition des lois discriminatoires. Et ça, c'est vrai que le 1er mai, le régime a réagi très violemment, il y a eu plus d'une centaine d'arrestations, il y a eu aussi au matin du 1er mai, qui était un vendredi, et si c'est un vendredi, c'est que normalement c'est le jour de congé dans les pays musulmans.
Ouais.
En particulier dans les régimes islamiques. Et le matin du 1er mai, en fait, il y a Delara Darabi qui a été exécutée, qui a été pendue. Et c'est une jeune fille, elle devait avoir 23 ans, qui a été condamnée à mort quand elle avait 17 ans. Et il y avait une campagne à la fois en Iran et à la fois au niveau international de sympathie, de demander qu'elle soit pas exécutée. Et on pense que son exécution le matin du 1er mai, c'était un moyen pour faire peur aux ouvriers.
Ah ben c'est un signe effectivement pour montrer que le régime est prêt à accepter les preuves de force, parce que le régime bon, faudra revenir sur ces termes-là, mais le régime iranien est fortement très conscient de ce qui se passe dans sa société. Il y a une crise assez importante. On sait que l'une des principales rentrées d'argent de l'Iran, c'est le pétrole. Hein, l'Iran, c'est quand même un pays qui est potentiellement riche, puisque c'est quand même le deuxième pays producteur de l'OPEP, qui possède environ à peu près 10% des réserves internationales. Mais ça, c'est un chiffre qui est confirmé, ça peut être plus. C'est un pays qui possède également certainement les deuxièmes réserves mondiales de gaz. Mais c'est un pays dans lequel il y a... C'est difficile d'avoir des chiffres, mais au moins 18% de chômeurs, et il y a plus de 14% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, quoi. Donc il y a des écarts extrêmement importants. Ouais. C'est-à-dire que l'État islamique et la dictature islamique n'a pas réussi à niveler les classes sociales, bien au contraire, quoi. Il y a une vraie oligarchie à la fois, j'allais dire, religieuse et bourgeoise, qui profite largement du gâteau et qui ne partage pas, quoi. Est-ce que tu peux nous donner des éléments un petit peu sur la composition sociale de la société iranienne?
Composition sociale, c'est déjà, comme tu disais, tu parlais des richesses de l'extraction pétrolière, mais en plus de ça, c'est pas que un pays de production de matières premières, c'est aussi un pays qui a une industrie relativement moderne. Par exemple, l'Iran Khodro, qui est une industrie de l'automobile en Iran, c'est la plus grosse entreprise automobile de l'ensemble du Moyen-Orient, Israël compris.
C'est ça, ils ont leur propre marque, ça s'appelle la Pécan.
Voilà. Alors, ça bosse pas mal avec Peugeot. D'ailleurs, les bagnoles y ressemblent beaucoup. Mais bon, je sais plus combien de milliers, c'est en dizaines de milliers d'ouvriers, c'est une très grosse boîte. Il y a aussi la production de pneus, enfin il y a c'est pas que le pays, je dirais, qui produit du pétrole pour le revendre aux puissances impérialistes.
D'autant plus qu'ils ont un problème de raffinement du pétrole, ils ont pas beaucoup de raffinerie, donc
ça en raffinerie effectivement. Mais il y a tout le reste industriel. C'est un pays relativement moderne, je crois qu'il y a moins de 20% de la population qui travaille dans le secteur agricole.
Ouais.
Donc c'est pas du tout la composition sociale, par exemple, de l'Afghanistan, avec une classe ouvrière, du coup, et des grosses usines, comme je disais, notamment dans l'automobile, le pétrole, l'automobile, d'autres secteurs. C'est tu disais que le régime islamique a pas réussi à rendre la société plus égalitaire, il a surtout pas cherché à le faire non plus. C'est que le régime islamique, ça a été en 79, quand il y a eu la révolution contre le Shah, et notamment la grève générale des ouvriers du pétrole, le régime islamique, c'était au contraire un moyen de la bourgeoisie, et y compris des grandes puissances occidentales, un moyen pour écraser cette révolution, et pour maintenir un système capitaliste en
Tout
Iran.
Fait, ouais.
Et c'est un pays capitaliste, alors défendu par un régime islamique, mais complètement intégré, qui a des conflits avec l'Occident, mais qui a des marchés avec la Chine ou la Russie, et puis même avec l'Occident, Iran Khodro bosse complètement avec Peugeot, et alors cette classe au pouvoir de religieux, très corrompu, qui pille les richesses. J'avais vu passer quelques chiffres, mais alors j'ai pas de mémoire pour les chiffres des comptes en banque. Faudra que je retrouve. Il y avait une vidéo qui mettait les comptes en banque à l'étranger des têtes du régime. Bon, c'est des millions, voire des milliards d'euros et de dollars qui sont alors sur des banques en Allemagne, en Suisse, à Dubaï, un peu partout.
Ah ben ça tourne, ça effectivement. On peut redonner également quelques chiffres pour avoir un petit peu une photographie de la société iranienne. Une société où il y a un taux d'alphabétisation qui est aux alentours de 80%. Tu l'as dit, majoritairement, elle est urbaine, à peu près à 60-70%. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez inédit dans la région. Et donc en plus, c'est des gens qui sont donc en mouvement, quoi. Il y a eu aussi quelques éléments qu'on pourrait donner, c'est qu'en 2016, 2007 et 2008, il y a eu une grande sécheresse, pardon. Donc il y a eu des petits problèmes, et puis il y a aussi quand même un système de l'emploi qui est particulier. Tu parlais des salaires qui sont pas payés. Il faut savoir que il y a 80 à 90% des salariés qui font partie soit du secteur public, en tous les cas dans les grandes industries de base que tu décrivais, ou soit dans un secteur coopératif, un petit peu, comment ça s'appelle? Ça s'appelle les bognades, voilà, c'est ça. Des espèces de coopératives principalement agricoles, mais qui ont un lien avec le religieux, quoi. Donc, comme l'État est lourdement endetté, il y a eu des problèmes de versement des salaires, etc. Et donc, ça donne encore plus de poids aux revendications, quoi.
Oui, alors t'as vraiment énormément de débrayages. La revendication principale quand il y a des grèves ou des débrayages ou des protestations dans les usines, c'est le paiement des salaires. Parce qu'en plus, l'Iran, qui est complètement intégré au système de l'économie capitaliste, est bien touché par la crise. Mmh. Et comme tu le disais, effectivement, le régime islamique a nationalisé une grande partie de l'industrie, ce qui remet en rien en cause au fonctionnement capitaliste. Là, ça, depuis Ahmadinejad, depuis son premier mandat, il y a des privatisations, mais qui souvent sont en fait des boîtes privées montées par le Basiji ou les gardiens de la révolution. Okay. Notamment qu'ont récupéré les télécoms il y a quelques mois. C'est un fonctionnement, enfin de privatisation, mais avec une espèce de mafia qui se partage ce qui rachète à bas prix pour se faire du pognon une partie des boîtes. Ouais. Sans que ça remette en cause, enfin c'est pas la nationalisation en soi, ça a rien à voir avec le socialisme ou la rupture avec le capitalisme. Hein. Mm-hmm. C'était même ça peut même être un moyen, c'est arrivé dans pas mal de pays, pour moderniser de façon à peu près cohérente un système capitaliste, puisqu'il y a une direction d'État qui est donnée, plutôt que de laisser aux intérêts de différents groupes particuliers. Donc ça n'a pas du tout remis en cause l'intégration de l'Iran dans le marché mondial.
Non, absolument pas. D'ailleurs, comme tu l'as dit, il y a eu des gros, il y a des gros marchés avec l'Inde et la Chine. Et d'ailleurs, même avec les ennemis endémiques du système. Je parlais tout à l'heure de ce problème de sécheresse. Mmh. Et ben, il y a eu un contrat qui a été passé entre l'Iran et les États-Unis, ouais, pour 1,2 million de tonnes de blé achetées aux Américains en 2008. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on est méchant que ça empêche de faire des affaires, quoi.
Non, non, et puis sur des trucs à plus long terme qui sont pas que de l'achat, par exemple Peugeot Iran Caudro, Peugeot intervient énormément pour Iran Caudro en Iran.
C'est PSA, hein. Il y a PSA qui travaille beaucoup là-haut.
Oui, bah, c'est Peugeot. PSA, ouais. Je dis encore Peugeot, maintenant c'est Peugeot Citroën, société anonyme. Ou alors, bon, bah, comme je le disais, hein, les millions, les milliards des dirigeants du régime qui vont dans des banques. Certaines, c'est écrit banque islamique de je sais pas quoi à Dubaï, mm-hmm, ou je sais pas. D'autres, elles sont pas plus islamiques que Obama ou Sarkozy. Hein, quand c'est des banques suédoises, pas suisses, espagnoles, allemandes ou britanniques, c'est pas forcément super halal. Hein.
Tout à fait. Et puis il y a une bourse à Téhéran. Il y a une bourse. Oui. Et d'ailleurs, il y avait normalement une réforme qui devait entrer en vigueur en 2008, puisque la bourse fait ses échanges en dollars. Hein, et il y avait une proposition de les faire passer en euros. Donc vous voyez, il y a des enjeux quand même qui sont extrêmement importants, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Ben, je pense que ça serait important d'essayer de comprendre, ben, qu'est-ce qu'il y a comme opposition aujourd'hui en Iran, parce que une fois de plus, du point de vue des médias occidentaux, on nous présente toujours la scène politique iranienne comme étant complètement bouclée. Alors soit c'est un ayatollah qui est cool, soit c'est un réformateur qui est effectivement cool, mais on nous parle jamais d'autres types d'organisations politiques.
Avant de parler des autres orgas politiques,
je t'en prie,
quand même un truc, c'est que les élections en Iran même, hein, oui, quand ça a commencé, il faut savoir que les candidats sont forcément... les candidatures sont forcément validées par le Conseil des gardiens de la Révolution.
C'est ça, oui.
C'est-à-dire que c'est forcément des gens qui sont intégrés au régime de la République islamique. Mm-hmm. Moussaoui et Karoubi, par exemple, sont complètement... Moussaoui était ministre pendant Khomeini, et son discours, d'ailleurs, c'est revenir à la belle époque de Khomeini.
Tout à fait, oui.
C'est pas du tout, c'est même pas un démocrate bourgeois.
Au pire.
Voilà, c'est un des membres du régime islamique qui est en opposition, enfin c'est une fraction qui s'oppose à celle d'Ahmadinejad, qui apparaît réformatrice, effectivement, qui promet 2-3 petites réformes, mais qui explique qu'il faudrait lâcher un peu de l'Est au niveau social, pas réimposer le hijab le plus pur et dur, laisser les jeunes un peu sortir le soir, des trucs comme ça, mais dans une volonté, en gros, en disant, en lâchant ça, on permet de maintenir le cœur du régime, et sinon, ça risque d'exploser. Alors, à part ça, comme c'est quand même un pays moderne, c'est un pays qui a une tradition, notamment communiste, de lutte, les 30 ans du régime islamique, ça a été aussi 30 ans d'opposition au régime. Notamment au Kurdistan, où il y a eu une dizaine d'années de lutte armée contre le régime, avec à la fois d'un côté un élément nationaliste kurde, avec le PDKI, Parti démocrate kurde iranien, et aussi une guérilla marxiste, Komala.
La Komala, ouais. Ça veut dire société en kurde.
Comité, société. Ouais. D'où est issu le Parti communiste ouvrier d'Iran.
C'est ça.
Par exemple, dans les oppositions, là, je dirais, de gauche, extrême gauche au régime. Et il y a aussi, y compris d'ailleurs, une opposition de droite.
Ah bon ?
Des gens qui voudraient le retour du Shah, par exemple.
D'accord.
L'opposition pro-occidentale ou des groupes comme les Moudjahidines.
Ils viennent d'où ces Moudjahidines du peuple ? On n'arrivait pas exactement à définir leur origine la semaine dernière.
C'est une bonne question. à l'origine, c'était un truc un peu bizarre dans les années 70 d'opposition au Shah. Qui était décrit comme islamo-marxiste.
D'accord.
Ouais. Moi, j'ai un peu de mal avec l'islamo-marxiste.
Je sais pas ce que c'est, moi non plus.
Ouais, moi non plus. Le marxisme, je sais ce que c'est. L'islam, je sais ce que c'est. J'ai du mal à voir comment le marxisme peut être autre chose que matérialiste. Au sens athée, hein. Et après coup, d'abord, comme une grande partie d'ailleurs de la gauche iranienne en 79, c'était le soutien derrière Khomeini pour l'unité du peuple contre la monarchie et contre l'impérialisme. C'était la politique qu'avait aussi le Toudeh, qu'avait les Fedaïs de majorité, un groupe issu, on va dire, marxiste-léniniste, pour faire vite. Et les Moudjahidines, et quand ils se sont retrouvés, quand le régime a pris de plus en plus d'assurance, il s'est mis à liquider toute l'opposition possible, les Moudjahidines, eux, ont toujours, en gros, leur stratégie, c'était de trouver un appui d'un autre État contre le régime islamique. Ça a été de s'appuyer sur Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak. Et ça a été, après, plutôt d'essayer de faire du lobbying vis-à-vis des États-Unis ou vis-à-vis de pays d'Europe pour faire pression en espérant qu'en gros, par le haut, il y ait un changement et qu'ils aient une place dans un gouvernement d'un changement qui serait imposé par le haut.
D'accord.
Alors là, il y a une perspective de changement qui peut se faire par le bas et ce qui donne des perspectives d'action à ceux qui ont, au contraire, toujours pensé que le changement en Iran se ferait ni par des États étrangers, ni par des tractations au sein du régime, mais se ferait par une révolution populaire, ouvrière, venant de la base. Notamment, ça, c'est plutôt les forces de gauche. Pour moi, ce que je connais le mieux, c'est le Parti communiste ouvrier d'Iran. Après, il y a les autres groupes qui se réclament aussi du communisme ouvrier, comme le Parti communiste ekmatiste. Il y a les Fedaïnes minorités. Enfin, il y a ces groupes qui continuent d'avoir aussi une activité en Iran même.
D'accord. Alors, leur principale différence, c'est le fait qu'il y a toute cette fraction cette partie d'extrême gauche, c'est qu'ils ont des différences à la fois sur la nature du régime, la nature du capitalisme en Iran, et puis aussi, ils ont une interprétation différente de comment est-ce que la contre-révolution islamique a réussi à remporter la mise lors de la chute du Shah. Ce que je te propose, moi, c'est qu'on va faire une petite pause musicale, on va s'écouter un peu de musique, on va écouter un émigré iranien aux États-Unis qui s'appelle Kehran Kalor, qui joue de la sitar. Donc c'est un instrument traditionnel et il a réussi un petit peu à moderniser ça, et c'est quelqu'un qui vend énormément de disques et qui est très représentatif d'une partie de la musique iranienne. Voilà, à tout à l'heure, Pascal.
Ne quitte pas. À tout à l'heure.
Pascal, est-ce que tu es revenu? Est-ce que tu es
Oui, je suis
très
là,
bien. Ouais. On avait justement une discussion hors antenne assez intéressante où il y avait un camarade qui abordait le problème de la guerre Iran-Irak. Vas-y, Jean-Denis.
Oui, bonjour. Je me posais la question de savoir si on pouvait percevoir dans l'intensité du mouvement actuel la présence des vétérans, si on peut dire, de la guerre Iran-Irak, à qui les différents régimes ont pu promettre monts et merveilles, si on peut dire, et qui sont revenus dans cette société justement à la triste réalité de ce régime, quoi. Successif, hein, parce que il n'y en a pas eu qu'un seul.
Ouais, alors dans ce qu'on disait sur la réalité sociale de l'Iran aujourd'hui, il y a une chose qu'on a un peu oubliée, c'est que l'Iran, c'est 60% de la population qui a moins de 30 ans.
Ouais.
Et que ceux qui sont quand même, et celles qui sont à la tête de la contestation, c'est quand même pour l'instant surtout les universités, les écoles, c'est la jeunesse. C'est quand on voit les images des manifestants, bon, il y a des personnes un peu plus âgées, mais il y a quand même beaucoup de très jeunes, mais y compris dans les victimes, dans les listes de tués, beaucoup qui ont 20 ans, 19 ans, 21 ans. Neda, elle avait 27 ans. Qui a connu la guerre, mais qui n'y a pas forcément participé sur le front, qui était enfant pendant la guerre. Alors par contre, il y a dans les slogans, il y a des choses qui reviennent, qui font un peu référence. Par exemple, un slogan qui dit « Nous sommes les enfants de la guerre, attaquez-nous, nous saurons riposter
».
Voilà. Je pense par contre que la guerre Iran-Irak, elle a joué un grand rôle aussi pour permettre au régime d'écraser l'opposition en interne. L'opposition qui existait en 79. Quoi. La guerre, ça a donné une justification pour liquider des dizaines, voire des centaines de milliers d'opposants.
Tout à fait. Et puis, de toute façon, comme le dit Orwell, la guerre, elle se fait toujours contre son propre peuple.
Oui, oui.
Et notamment, ça a été aussi un instrument militaire parfait pour mater la guérilla dont tu parlais tout à l'heure, la guérilla au Kurdistan, où il y a quand même, en septembre 82, plus de 150 000 hommes qui ont encerclé le Kurdistan et qui ont procédé à un nettoyage complet et total de cette guérilla et des foyers de guérilla, quoi. Et ce qui aboutira plus tard, comme tu disais, en septembre 83, à la fondation du Parti communiste d'Iran, d'où le PCOI dont tu parlais, le Parti communiste ouvrier irakien, est issu. D'ailleurs, oui, voilà, tu disais 30 ans d'une révolution, 30 ans de régime islamique, c'est assez court. Quelle mémoire les gens ils ont de ce régime, de cette révolution, pardon, de cette transformation?
Alors, je pense pour une grande partie de la population qui est née au moment de la révolution, tous ceux qui ont moins de 30 ans, c'est une mémoire qui vient des parents.
D'accord.
Ce qu'on voit vraiment en plus dans les slogans, c'est quand même des références des années 70 parfois.
Uh-huh.
Par exemple, il y avait un slogan qui devait dire Ahmadinejad ou Khamenei Pinochet, mais l'Iran n'est pas le Chili. L'actualité aujourd'hui, même en Amérique latine, c'est pas forcément le coup d'état militaire au Chili. Ça, c'est vraiment le début des années 70 et ça fait référence à des slogans de la gauche ou de l'opposition au régime du Shah, plutôt progressiste, des années 70 contre la dictature du Shah. Il y a aussi même le slogan indépendance, liberté, république iranienne.
Ouais.
En fait, ça, c'est une transformation d'un slogan des islamistes en 79 qui était de dire république islamique. Donc il y a quand même il y a une génération avant qui est toujours là, qui a connu la révolution de 79, certainement qui a connu le mouvement ouvrier, plusieurs organisations même révolutionnaires confondues en Iran font référence régulièrement au Conseil ouvrier.
Mmh.
Ça a été une réalité en 79. Alors quand on parle de Conseil ouvrier en Iran, on parle pas en France, ça fait référence à 1917, voire pour ceux qui connaissent le mieux l'histoire du mouvement ouvrier, 18-19 en Allemagne.
Mmh.
Pour la France même, c'est à part Strasbourg, il n'y a pas eu grand-chose. En Iran, c'est 30 ans. C'est des gens qui, il y a des gens qui sont encore là-bas, qui sont en exil, mais qui sont en lien avec la situation en Iran, qui ont connu, qui ont vu le fonctionnement de conseils ouvriers dans les usines.
D'accord. On peut imaginer, par exemple, des gens qui avaient 20 ans, pour donner un truc, une image, un exemple qui n'a rien à voir, mais des gens qui auraient vécu la commune et qui seraient encore vivants, quoi. On est un peu dans cet état d'esprit-là.
Voilà,
quoi.
Voilà.
Donc des gens qui savent qu'il y a d'autres formes qui sont possibles et surtout qui ont une mémoire de ce qui s'est passé. Parce que effectivement, je pense que c'est très important de le rappeler, ça. Cette révolution de 79, ou cette contre-révolution, si on pense que la révolution, c'est Khomeini, elle s'est déroulée quand même selon un schéma assez particulier, quoi, non ?
Ben, c'est au départ, c'est une révolution contre une monarchie dictatoriale. Hein. Il y avait une police secrète qui assassinait des militants politiques. C'était une révolution ouvrière, hein, puisque le coup fatal donné à la monarchie, ça a été la grève générale dans l'industrie pétrolière. Et le courant politique qui en a bénéficié, en fait, c'est un courant réactionnaire, qui sont les Mollahs. Mmh. Qui effectivement était un peu le chat d'Iran, c'était de la monarchie dictatoriale mais moderniste, on va dire. Mmh. Et qu'avait un petit peu, mais alors un tout petit peu, hein, remis en cause certaines prérogatives du clergé dans une optique de modernisation capitaliste. Donc il y a eu le clergé allié avec ce qu'on dit la petite bourgeoisie du bazar qui a pris le pouvoir. Mais avec surtout là où il y a eu catastrophe, quoi, c'était la politique de la gauche iranienne à l'époque, puisque les principaux partis, soit le parti Toudé, qui est en fait le parti lié à l'Union soviétique, et les Fedaïnes, qui étaient la principale organisation d'extrême gauche ou de gauche, enfin issue plutôt du marxisme-léninisme, avaient comme politique le soutien à Khomeini. En disant, il réunit l'ensemble du peuple, il faut le soutenir parce que c'est le représentant de la bourgeoisie nationale démocratique face à l'impérialisme et à la monarchie.
C'est ça, en fait, il y avait une analyse extrêmement dogmatique parfois et il avait véritablement une vision de la société qui devait, une vision de la révolution qui devait fonctionner comme un espèce de décalque de la théorie, quoi.
Ouais, enfin c'est la théorie stalinienne classique, hein, qui a eu dans plein de pays. C'était les PC staliniens, c'était le soutien à Nasser en Égypte, le soutien aux partis basses en Syrie ou en Irak. Régulièrement, ils se sont fait massacrer après. Mais c'était, on soutient, bon, en gros, en plus c'était les intérêts de la bureaucratie soviétique, quoi. C'est on soutient ceux qui s'opposent aux États-Unis, ce qui est le cas de certains gauchistes encore aujourd'hui. On soutient pas ce qui va dans notre programme, mais de ce qui s'oppose à ce qu'on considère être l'ennemi principal aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a certains courants à l'extrême gauche qui l'Iran, ça les gêne un peu, puisque c'est un état pseudo-anti-impérialiste selon eux.
D'où le fait qu'il y a même certaines positions qui sont vachement craignos, mais qui sont logiques si on se plonge et si on regarde avec cette grille de lecture-là.
Voilà. Et du coup, ces parties-là, qui était vraiment majoritaire, parce que ce qui allait donner le PCOI bien après, c'était un tout petit groupe qui s'appelait l'Union des militants communistes sur Téhéran, bon, un petit groupe qui avait pas d'influence, quoi, qui avait une petite activité. Ils ont aussi participé au reflux de la révolution. Ils ont, par exemple, il y a un camarade qui avait raconté, il était tout jeune, bon, il a eu son activité de militant communiste révolutionnaire, il intervenait dans une petite boîte de 200-300 ouvriers, qui était en grève, et il y a le patron qui se pointe avec des cadres du Toudé, et qui s'adresse aux ouvriers en disant « Camarades, vous êtes au stade de la révolution nationale bourgeoise démocratique. Pour l'instant, je suis votre allié. Faire grève, c'est aller contre vos intérêts.
Ouais, » c'est pas mal.
Le camarade a dit qu'il avait compris que comme c'était pourri la théorie de la révolution par étapes des Stalins et des Mao à cette époque-là. Mais c'était... Il y avait aussi ça. Et même pire, parce que des membres... quand il y a eu la scission, par exemple, Fedaïne majorité, Fedaïne minorité, alors pour aller vite, la minorité... refuser l'alliance avec Khomeini, enfin la critiquer assez vite, des membres de Fedaïne majorité, accompagnés des membres du Hezbollah, le parti islamique, hein, des brutes, hein, vraiment c'était type SA si on veut comparer ce qu'a pu connaître l'Europe. Et comme c'était des gens qui étaient dans le même milieu de gauche, on va dire, ils connaissaient bien des militants Fedaïne minorité ou des groupes d'extrême gauche plus radicaux. Donc c'est eux qui, en voiture, désignaient en disant voilà, eux c'est des communistes qui s'opposent au régime, livraient leurs camarades, leurs anciens camarades, aux milices islamiques.
Alors donc effectivement, le cœur, le moteur de la transformation sociale et de la mise à bas du régime du chat, ça a été la classe ouvrière et la constitution, comme tu l'as dit là, des comités ouvriers qu'on appelait les choras.
Ouais.
Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir a donc été chassé et très rapidement le janvier, début janvier, ça va être le 16 janvier, je crois, la chute du chat. Ensuite, le 1er février, il y a Khomeini qui rentre. Au même moment, il y a les Kurdes dont on a parlé tout à l'heure, qui déclenche l'insurrection armée. Et le 1er avril, je crois, c'est ça, en fait, le Khomeini et sa clique vont organiser un référendum pour faire approuver la République islamique, quoi.
Ouais. Alors, en plus du soutien de la gauche, ces partis de gauche iraniens, pour Khomeini, il y a quand même eu en plus le soutien de tous les États impérialistes.
Mmh.
À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, et donc les gens écoutaient pour s'informer pendant le soulèvement contre le chat, écoutaient beaucoup la BBC, les radios étrangères. Bon, ce qui se fait dans quasiment toutes les dictatures, on cherche à avoir des infos par d'autres sources. Et la BBC, par exemple, c'était quasiment devenu la voix de Khomeini. Il intervenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et beaucoup d'Iraniens ont connu Khomeini par la BBC. Ils n'en avaient jamais entendu parler avant. Et c'est comme ça qu'ils l'ont connu. Il était d'ailleurs, il était en France.
Oui, hein, il était en France. Ouais.
J'allais dire, il était gentiment et chaleureusement hébergé en France avant de rentrer.
Et c'est là qu'il enregistrait ses cassettes, qu'il envoyait, les cassettes avec lesquelles il faisait des prêches, quoi. Comme quoi, parfois, les islamistes sont parfois utiles. Eh ben oui, effectivement, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est important là-dedans, parce que c'est l'attitude de la communauté internationale. On a vu cette communauté internationale être capable de s'enthousiasmer, de donner des rappels à l'ordre ces derniers temps, mais aujourd'hui, alors que, comme tu l'as dit, et comme on a essayé de le faire comprendre, le mouvement prenait une autre ampleur, une autre envergure, une autre nature, aujourd'hui c'est un petit peu silence radio, quoi, non ?
C'est alors, il peut y avoir des condamnations de principe quand il y a des massacres, quand il y a des bains de sang, disant bon, il faut arrêter un peu la répression. Ça en reste surtout sur le principe. Bon, par exemple, les ambassades sont toujours. Ahmadinejad, il a été invité récemment au sommet sur le climat à Copenhague, il avait été invité à l'ONU en septembre à New York. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas. Et je pense que pour l'ensemble des États qui existent, il y a quand même une certaine trouille. C'est que si c'est pour que Ahmadinejad parte et qu'à la place il y a Moussaoui, hein, ou qu'il y ait n'importe quel autre, pour continuer comme, enfin, maintenir l'exploitation capitaliste, je dirais qu'ils sont contre-foot.
Tout à fait.
À la limite, Ahmadinejad, bon, avec son côté un peu radical, nationaliste, s'il pouvait avoir une aile qui veut plus. Qui est plus prête à discuter sur le nucléaire ou sur des trucs comme ça, ou à moins menacer Israël, ça les gênerait pas plus que ça. Par contre, là, vu la profondeur et la radicalisation du mouvement, il y a quand même, je pense, ce que détestent tous les États, quels qu'ils soient démocratiques, théocratiques ou n'importe, c'est de se retrouver devant un mouvement populaire. Qui peut aller bien plus loin que simplement changer le Premier ministre ou le Président.
Et on pourrait imaginer ce qu'un mouvement comme ça, une transformation radicale de la société pourrait symboliser et entraîner dans la région, quoi.
Dans la région et même bien au-delà. Alors dans la région, c'est clair. Sur une question, par exemple, fondamentale dans la région, qui est l'oppression des femmes. Puisque l'oppression des femmes au Moyen-Orient, au Pakistan, c'est alors même si ça reste universel, c'est quand même à un autre degré qu'en Europe. Hein, c'est vraiment un apartheid sexiste. C'est de voir ces jeunes filles de Téhéran ou de Machad ou d'ailleurs en Iran qui affrontent des brutes épaisses et qui les font reculer. Ça peut donner des idées, alors surtout si elles font effondrer le régime, aux femmes d'Arabie Saoudite, du Pakistan, d'Afghanistan, voire de Jordanie ou d'ailleurs.
Et puis ça donnerait aussi un grand coup à la propagande occidentale qui dit que les peuples du Proche-Orient ne sont que tentés par l'islamisme, quoi. Il y a que cette doctrine politique et ce courant politique qui est représenté dans les pays soit musulmans soit même arabes, quoi.
Ouais, musulmans. musulmans, c'est beaucoup plus large. Parce qu'il y a des,
il y a des musulmans qui ne sont pas arabes, ouais.
Ouais, oui, d'ailleurs, l'Iran n'est pas arabe. Oui. Le Pakistan, l'Afghanistan non plus. Oui, en plus, alors déjà, ça briserait, parce que l'Iran, c'est la référence de la quasi-totalité des courants islamistes. Un peu comme l'URSS était la référence pour tous les courants stals. Que ce soit en critique ou pas, c'est la référence, c'est un soutien financier quand même qu'apporte l'Iran à des groupes comme le Hezbollah, le Hamas ou les frères musulmans ailleurs. Et du coup, effectivement, ça créerait un troisième front dans cette région du monde, en Iran, en Irak ou en Afghanistan, qui est ravagée par le conflit entre les impérialistes occidentaux d'un côté et les islamistes de l'autre. Ça ouvrirait une autre perspective, qui serait ni la domination par des troupes d'occupation, ni celle des islamistes.
Et c'est pour ça que effectivement il faut qu'on fasse tout ce qui est possible pour pouvoir au moins affirmer notre solidarité, puis au moins essayer d'aider un petit peu. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, à ton avis, toi qui connais bien la...
Bah, moi, je dirais déjà toute protestation peut être utile, même si c'est des petites protestations, notamment, bon, là, c'est une émission sur Reims, hein, pourquoi pas
à
Reims.
Mais qui est diffusée à Toulouse et à Montpellier, quand même.
Bon, ben bah voilà, donc avec des villes plus importantes, il peut y avoir des petits rassemblements qui peuvent être organisés au centre-ville. Bon, dans les villes où il y en a, pourquoi pas vers les ambassades et les consulats de la République islamique, c'est encore plus fort, mais bon, si on n'a pas, on peut quand même faire des rassemblements. Notamment, je pense, en insistant, en dénonçant les condamnations à mort qui risquent d'arriver contre des manifestants. Il y en a déjà eu, hein, il pourrait y en avoir d'autres, de dénoncer ça, de dénoncer les exécutions, dénoncer la répression, d'affirmer la solidarité, de créer aussi, essayer de créer petit à petit aussi des réseaux pour la solidarité, parce qu'on ne sait pas jusqu'où peut aller la radicalisation de la révolution en Iran, et c'est sûr que si elle prend un tournant de plus en plus social, il n'y aura pas que les mollahs qui seront contre la révolution.
Tout à fait.
Il y aura y compris des démocrates. Je parle de nos chefs d'État. Et il faudra là faire directement pression sur les gouvernements pour éviter, j'en sais rien, si ça se radicalise, pourquoi pas des interventions contre l'Iran. Et y compris aujourd'hui, je pense qu'il faut être très clair de refuser toute intervention militaire en Iran.
Tout à fait.
Qui ferait que renforcer le régime et affaiblir le mouvement révolutionnaire en Iran. Ce serait une catastrophe.
Ça serait la pire chose.
Ce serait la pire chose, hein, une intervention militaire. Alors peut-être qu'elle mettrait en place un gouvernement moussaoui et nostalgique du Shah, j'en sais rien, sous la houlette des États-Unis. Mais un, ça réglerait aucune des revendications d'aspiration à la liberté, à l'égalité de la population. Et le courant islamiste dans le monde serait pas abattu comme il le serait si c'est une révolution populaire en Iran qui fout en l'air le régime.
Alors, il y a aussi un truc concret dont on parlait tout à l'heure au téléphone avant de commencer. Il y a Interpol, on en parlait la semaine dernière, qui a relayé les mandats d'arrêt émis par le ministère de l'Intérieur iranien. Est-ce que on peut avoir une protestation contre ça, une protestation même si elle est virtuelle ou épistolaire, on peut écrire tout.
Alors, il y a des pétitions qui existent. Hein. Il y en a une là en français qui a été relayée, enfin lancée par un site qui s'appelle La Bataille Socialiste. Qui est assez facile à trouver, hein, parce que le siège d'Interpol est à Lyon.
D'accord.
Il y a ça, et là, je vais le traduire, ce sera peut-être sur le site Iran en lutte dans la nuit. Il y a aussi une campagne plus au niveau international,
ouais,
pour demander le retrait, parce qu'en fait, c'est, je crois, 12 militants du PCO ECMATiste. Bon, c'est une scission du Parti communiste ouvrier d'Iran, mais ça reste des militants et des camarades qui ont été fichés, enfin mis dans le système internet d'Interpol, où n'importe qui peut y avoir accès, avec leur condamnation, le mandat d'arrêt du régime islamique, leurs photos, le lieu de résidence, et les accusations qui sont soit bande criminelle, soit terrorisme. Pour un régime qui, lui, est plutôt... qui est plutôt, lui, qui est pourvoyeur de terrorisme, et avec le risque aussi, c'est que le régime iranien est connu pour avoir envoyé des groupes armés liquider des militants, des opposants, aux quatre coins du monde. Hein. L'exemple le plus connu, c'est Salman Rushdie. Quand il y avait eu la fatwa du régime, ouais, je crois que le traducteur japonais de Salman Rushdie a été assassiné.
Il y avait eu Chapon Bakhtar. Eu des militants qui avaient été assassinés en Suède.
Oui, à Chypre aussi.
À Chypre, ouais.
Un militant qui était le porte-parole de la Fédération internationale des réfugiés iraniens, ouais, qui allait voir sa mère à Chypre et qui a été assassiné. Des militants nationalistes kurdes, des communistes. Enfin, c'est une pratique qui n'est pas exceptionnelle pour la République islamique.
Moi, d'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'état de la diaspora iranienne en Europe et en Occident, rapidement?
Alors, elle est énorme, puisque c'est plusieurs millions de personnes en Occident, en dehors de l'Iran. Je crois que c'est 6 millions d'Iraniens qui sont en dehors de l'Iran, avec deux courants différents. Il y a les réfugiés politiques. Alors, toutes tendances confondues, puisque ça peut aller des monarchistes jusqu'aux communistes révolutionnaires.
Il y a un gros lobby monarchiste aux États-Unis, ouais, notamment.
Voilà, voilà.
Ouais, le maire de Beverly Hills est d'origine iranienne.
Voilà. Et aussi, je dirais, alors, plus... au Japon, il peut y avoir une immigration ouvrière. Parce qu'il y avait un temps, il n'y avait pas besoin de visa, donc d'ouvriers iraniens qui allaient bosser au Japon. Mais aussi, souvent, c'est plutôt... des étudiants, je dirais, sans le dire de façon péjorative, de la petite bourgeoisie, qui apprécient pas trop le régime, qui ouvrent un petit resto, un petit magasin en Occident, qui retournent en vacances à Téhéran, pour avoir un niveau de vie un peu supérieur, et puis pas mal, ouais, aussi chez les étudiants, tout ça. Ça leur permet de passer quelques années un peu plus sympas qu'à Téhéran.
Ouais, il y a 40 000 soldes migratoires, comme on dit en démographie, mais il y a 40 000 personnes qui quittent le pays chaque année en Iran. Alors évidemment, un peu moins là cette année peut-être, mais donc il y a vraiment beaucoup de gens qui partent en permanence. Tu parlais de Lyon tout à l'heure. Je sais qu'à Lyon, il va y avoir une réunion publique justement des gens du PECOI qui vont essayer un petit peu de faire un meeting et puis de poser le problème. Malheureusement, nous, on va être obligés de s'arrêter parce qu'il est moins 5 et on a 2-3 trucs à dire. L'émission est disponible sur le site. De toute façon, je vais te l'envoyer. Tu ne vas pas quitter et je vais te reprendre hors antenne. Et puis, on vous tiendra quand même en courant, puis on continuera là-dessus. Voilà. On va écouter un tout petit bout de Mano Solo parce que, bon, pour une fois, c'est un Chalonnais et on ne fait pas que des sales trucs à Chalon. Mano Solo, il est mort ce week-end et donc il venait de notre région. Donc voilà, un petit peu de... Allez, c'était donc Les Régors, chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Les Régors, une parole anarchiste communiste.